Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 74. Mon nom est Paul Landriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Bon, fait que moi, je sais pas trop ce qui se passait hier soir, les gars. Qu'est-ce qui se passait à Montréal?
Il se passait la soirée Kino VIP, c'est ça qui se passait. Je vais en parler vite. En fait, c'est à chaque année que ça se passe à Kino, c'est notre soirée de financement annuel. Fait que c'est comme une espèce de galop, on présente un best-of du dernier cabaret, puis un genre de best-of, là, ce qu'on pense qui est le plus acceptable à présenter devant une foule. C'est tous des professionnels du milieu qui se rendaient là, puis on avait comme président d'honneur Raphaël Ouellette qui est venu donner un super speech sur comment Kino a donné un premier moteur, dans le fond, à sa carrière. Fait que ça a été... Ouais, c'était vraiment touchant, en fait, de l'entendre parler de ça, puis l'entendre, tu sais, voir justement que tu peux partir à Kino puis finir avec cette nomination du Jutra, là.
Ouais, c'est ça. Non, mais il parlait aussi d'une certaine ère de collaboration, tu sais, qui se retrouve plus vraiment au Québec aujourd'hui. Tu sais, il disait, même je le paraphrase, mais il disait qu'il trouvait que chaque cinéaste était une petite île, chacun, puis que la collaboration se perdait un petit peu, tu sais, dans les films, mettons, dans le temps, évidemment, dans l'âge d'or, Pierre Perrault, Michel Brault et compagnie, Claude Jutra, l'un se faisait, tu sais, la caméra sur le film de l'autre, le montage sur le film de l'un, puis tout ça. Puis il y avait une roue qui tournait parce que les gens s'entraidaient beaucoup. Puis comme lui, par exemple, dans ses premiers films, tu sais, il faisait beaucoup, c'est un grand ami aussi à Stéphane Lafleur, par exemple, puis on se rendait compte, justement, on visionnait... il a présenté un de ses Kino, d'ailleurs, un de ses films qui a fait Sans argent, un court-métrage, qui était très, très bien, d'ailleurs.
Ouais, puis Stéphane Lafleur a monté, puis il a fait la musique, avec Christian Laurence, exemple, qui a fait la direction photo. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est vraiment beau de voir ce clic-là, puis le monde qui ont chacun pris des directions différentes, mais en même temps qui sont restés, tu sais, des bons amis.
En même temps, on parle de la perte de collaboration, mais justement, hier, c'était la première du démantèlement, puis au montage, c'est Stéphane Lafleur.
C'est vrai. T'as tout à fait raison, puis ça aussi, je pourrais parler, c'est un beau film, le démantèlement. Non, t'as raison, puis tu sais, comme par exemple, Xavier Dolan a fait le montage de Quelqu'un d'extraordinaire de Monia Chokri aussi. Donc ça, c'est très bien.
Tu sais, Pascal Plante a produit Les Jaunes, tu sais. De Rémi Fréchette.
Vois-tu. Non, mais c'est bien qu'on tente vers ça. En fait, c'est tout. Puis je pense que, tu sais, Kino, ça a vraiment ça. Ça a plusieurs qualités, mais ça, je trouve que c'est une des grandes forces. C'est que ça encourage la collaboration à tous les niveaux, tu sais. Bref, fait que c'était une belle soirée.
Je pense que ça annonce une nouvelle bonne année à Kino aussi. Là. C'est le 15e, en fait, cette année. Donc, c'est vraiment fou. C'est à partir de 99, tout petit, juste une gang d'amis qui se disent on va faire un film par mois, puis c'est rendu 15 ans plus tard, on vient d'avoir un Kino à Shanghai, puis il y a des Kinos partout dans le monde à cette heure, c'est parti ici, là, c'est vraiment cool de voir ça. Là.
Non, exact. Hey, mais Paul, c'est vrai, en fait, j'avais pas réalisé que c'était Stéphane Lafleur qui a fait le montage de le démantèlement. Mm-hmm. Tu viens de me le rappeler carrément. C'est vrai, puis ça m'avait même accroché, je me rappelle, quand je l'ai visionné. Mon Dieu que je l'ai oublié, ce fait-là, mais c'est pas banal. C'est un beau film, hein, le démantèlement, les gars, si vous voulez, je vous en parle un peu.
Ben, vas-y donc. Démantèlement de Sébastien Pilote. Un film très attendu, qui a passé par Cannes et par TIFF avant d'arriver chez nous.
Ouais, c'est un beau film, puis vraiment, c'est vraiment en continuité avec Le Vendeur. Donc, si vous avez aimé Le Vendeur, vous allez aimer Le démantèlement.
Ben, est-ce qu'il y a du nouveau quand même? Est-ce que c'est le même film? Est-ce que c'est trop dans le même style? Parce que le Vendeur, autant qu'il y a une certaine saveur, autant qu'il n'y en a pas, là, parce que c'est vraiment un film qui est... C'est pas un film sans saveur dans un sens négatif, mais c'est juste que c'est un film tellement comme blanc, effacé, pis, effacé peu, ouais. C'est ça. C'est pas quelque chose qui est dans ta face, là.
Ben, OK, regarde. Ben, je pense qu'on peut lui reprocher les mêmes choses, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu trop transparent comme mise en scène, tu sais. Ça manque peut-être un petit peu d'éclat. Mais encore là, je veux dire, c'est tellement pardonné parce que, tu sais, c'est un beau film humain. Il y a quand même des nouveautés, évidemment, le paysage hivernal. Tu sais, Le Vendeur, c'était très hiver, c'était bien représenté, ça, ce côté-là, région. Là, c'est une autre sorte de région, puis on est vraiment l'été aussi. C'est l'histoire du personnage joué par Gabriel Arcand qui, ça fait longtemps qu'il est sur sa ferme, très solitaire justement. Il travaille dans le fond 24 heures sur 24. À peu près le seul contact qu'il a avec des gens, c'est un jeune homme qui l'aide à faire son entretien quotidien de la ferme. Puis il y a aussi un ami qui est interprété par Gilles Renaud. Ils prennent de la bière ensemble, puis tout ça. Bon, il est un chummy, là, si tu veux. Mais pour le reste du temps, il est divorcé de sa femme, donc il est très, très solitaire. Et puis le film est très épisodique dans la mesure où là, tout à coup, t'as la fille numéro 1 jouée par Lucie Laurier qui va venir le voir, elle s'en va. Après ça, t'as la fille numéro 2 jouée par Sophie Desmarais qui arrive, elle s'en va.
Dans son genre quatrième rôle.
Ouais, c'est ça, je pourrais même aussi parler de Godard d'Abitibi après, si ça vous tente, là. Mais... ouais, non, puis c'est très bien aussi le jeu en général, là, tout le monde, il y a un petit peu de littéraire là, qui se fait ressortir, il y a un petit peu de jeu théâtral chanté là, tu sais, qui accroche un peu l'oreille là, chez certains personnages secondaires, même chez Gabriel Arcand dans ses moins bons moments, mais en général, le jeu, ça va très bien. Et puis en tout cas, donc c'est un peu... Le côté petit village, il se fait ressentir de cette façon-là. T'sais, c'est un peu comme si une voiture arrive ou un étranger arrive, c'est comme un événement. Ben là, c'est le fait que ces filles viennent le voir, c'est comme un événement. Puis ce que j'ai trouvé qui était beaucoup meilleur que Le Vendeur dans ce film-ci, là où il a vraiment développé son style et son écriture, c'est au niveau des personnages secondaires. On sait, c'est souvent ça, je trouve, dans des films portraits qui viennent à être oubliés, en fait. C'est qu'on... Oui, c'est bien beau se concentrer sur le protagoniste, le personnage principal, mais à un moment donné, si tous les autres personnages sont juste là pour faire miroiter le personnage principal, c'est comme un vacuum, c'est sous vide, c'est pas vrai. Puis je trouve que dans Le Démantèlement, puis dans Le Vendeur aussi, avec certains personnages secondaires, je trouvais qu'ils étaient comme... C'était un peu faible. Dans Le Démantèlement, il y a vraiment un bon travail de développement de personnages secondaires. On en parle beaucoup, et même dans leur absence, ils ont une présence. Aussi, comme les filles, par exemple, elles viennent et elles partent, mais elles sont toujours là. Ils font partie de la réalité du film. Puis c'est très beau. Il y a un petit peu trop de musique. Tu sais, dans Le Vendeur, comment je pourrais dire ça? La grosse opposition, c'est que dans Le Vendeur, c'est plus drabe. Hein? Tu sais, c'est l'hiver, c'est mort. C'est... Bon, il y a une certaine beauté, mais encore là, c'est très amer aussi comme film. Hein? C'est un peu crise économique, dépopulation des régions et tout ça. Il y a ce commentaire-là qui revient dans Le Démantèlement, mais c'est des beaux paysages, tu sais, c'est très beau, léché, on dirait qu'on n'a pas peur de montrer le laid dans le beau, en fait, tu sais, c'est des couchers de soleil, des shots à la Magic Hour, qui rappellent quasiment un Terrence Malick de Days of Heaven, pratiquement, à certains moments, donc ça, c'est un plus qui était, pour moi, très différent du Vendeur, mais pour moi, c'est un film qui, on peut pas... Le critiquer sans le mettre en opposition à son film d'avant, parce que c'est vraiment la continuité des mêmes thèmes.
Puis, comment tu le placerais peut-être dans ton classement personnel des films québécois de l'année, là?
Dans les bons, pour de vrai, ouais. Dans les bons. Peut-être pas à la hauteur de... Moi pour moi, les meilleurs films québécois cette année, ça reste encore le Météore puis Vic et Flo. Ça a pas été changé par mon visionnement de Thomas Laferme ou de Diego Star ou de Godard d'Abitibi.
My God, que j'ai hâte d'y voir. Moi, j'ai manqué le FNC, hein, fait que finalement, tout de suite, je suis comme...
Mais Thomas Laferme, ça va être le fun d'en parler une fois que vous l'aurez vu. Moi, dans c'est un film mois. Que j'aime et que j'adore. Ouais, c'est ça, c'est fou, hein, on l'a vraiment tort. Mais c'est un film que j'aime sur tellement de points, mais que je trouve tellement... imbécile sur tellement d'autres points de Thomas Laferme, je parle. Fait que c'est un film qui fait bouillir le sang, tandis que Le Démantèlement, vois-tu, c'est, on est sur une belle note plane, c'est beau, touchant, juste, précis, mais vous sortirez pas du film en ayant envie de prendre votre caméra puis de faire un film, c'est pas ce genre de film. C'est pas un problème, là. Mais donc ouais, Le Démantèlement, c'est pas beaucoup, pas grand-chose de négatif à en retirer, en fait.
Donc un film de novembre, un peu, là. Des espèces de drame, tu sais, humain, puis...
Ouais, mais il y a une certaine... Comment je peux dire ça? He lightens up un peu. Je trouve que Le Vendeur, c'était plus amer. Je trouve que dans Le Démantèlement, il y a un petit côté ensoleillé quand même là, qui est apprécié.
On peut-tu faire un petit crush sur Godard d'Abitibi? Tu l'as comme mentionné vite, puis moi, ça m'intrigue parce que j'avais vu, en fait, à l'ONF, un documentaire sur Godard qui avait participé à sa chaîne de télévision en Abitibi.
Ouais.
Ça a-tu rapport avec ça?
C'est en rapport avec ça, mais d'entrée de jeu, dans Chasse au Godard d'Abitibi, c'est vraiment présenté comme un conte. Un conte divers. C'est un, en fait, il dit c'est un fait divers, mais avec le jeu de mots divers, H-I-V-E-R.
Ouais.
Donc le film aussi, justement, profite de l'hiver. C'est un ton de conte, hein, on dirait quasiment qu'on est en croisement entre un chat dans le sac et une narration à la Fred Pellerin. Donc c'est quand même assez étrange comme film. C'était une belle expérience. Il y a beaucoup de points négatifs quand même. Mais il y a une belle énergie un peu étrange, c'est ça. C'est un peu dur à comparer à quoi que ce soit.
L'histoire, c'est bien,
justement. Ouais, c'est bien, justement. Ça, c'est un de ses points forts. Le fait divers, H-I-V-E-R, dont le film traite, justement, c'est justement...
C'est drôle, ça.
le fait que Godard...
C'est très drôle.
Ouais, c'est... Oh, ben ouais, c'est drôle.
C'est hilarant.
Ben non, mais c'est... ça commence comme ça, hein. Ça commence sur un petit pot blanche sur fond noir avec genre, voici ce que vous allez voir. D'ailleurs, je trouve ça un peu... Je trouve ça drôle, tu sais, parce que on est tellement... On dirait qu'on prend tellement pour acquis que les films devraient être réalistes que dès qu'il y a un ton un peu étrange, on dirait qu'il a comme fallu que le film se justifie, genre.
Le monde a de la misère, ça... Que c'était un ouais, le monde a de la misère comme à s'assumer là-dedans, on dirait. Là.
Des fois, on dirait... T'sais, comme vois-tu
au Québec, surtout, c'est... en fait. Là.
Ouais, c'est ça. T'sais, d'entrée de jeu, on dit c'est un conte. Là. Puis il y a de la narration un peu maniérée qui nous dit bon, c'est un conte. Puis la narration, au fait, elle s'en va. Puis elle revient seulement à la fin pour faire un wrap-up au film. Parce que, tu sais, on aurait pu se faire confiance un peu plus, à mon avis, à ce niveau-là. T'sais. Bon, bref. Mais oui, c'est ça. On prend comme toile de fond l'escapade de Godard en Abitibi en 1968. Puis le film représente bien une certaine époque, hein, tu sais, c'est la foulée d'Expo 67, c'est les jeunes qui commencent à prendre de plus en plus de place, on a envie de changer les vieilles affaires, remplacer ça par du neuf, qui va s'écrouler en 2013, là, toutes les ponts qui tombent, là. Mais bon, je fais une allusion à la Révolution tranquille qui aujourd'hui fait que toutes nos ponts et nos infrastructures s'écroulent à Montréal, mais ça n'a aucunement rapport avec le film. Mais le film, c'est ça, donc le film, c'est vraiment autour de l'espèce de la belle énergie naïve de jeunesse, t'sais, c'est ça, chat dans le sac, là, les jeunes qui parlent, puis qui, bon... on suit le personnage de Martin Dubreuil qui est foudroyé par la prestation de Godard très théâtrale à la télévision d'Abitibi, qui le motive justement à faire une prise de parole, à sortir l'équipement vidéo, là, t'sais, dans l'équipement vidéo de l'époque, donc c'est vraiment très artefact. Puis le film le montre très bien avec une certaine nostalgie puis un certain clin d'œil au fait qui est très sympathique. Puis là, c'est ça, Martin Dubreuil, il est super motivé de ça. Puis là, parallèlement, il y a une espèce de couple joué par... c'est Alexandre Castonguay, son nom, puis Sophie Desmarais, dans son 6e... 72e rôle cette année. Puis là, ces deux-là sont rencontrent Martin Dubreuil dans un bar. Puis là, Martin Dubreuil, c'est un grand parleur, tout ça, un peu cruiseur. Puis là, il raconte qu'il va faire du cinéma, puis la prise de parole du peuple. Puis le personnage d'Alexandre Castonguay, il est vraiment intéressé de tout ça. Sophie Desmarais est un peu sceptique, mais finalement, les deux, ils embarquent. Ils embarquent dans une espèce de trip de télé, ciné direct, vox pop, avant le temps. Le film, justement, il y a beaucoup d'interludes en vox pop, vraiment comme en télé, noir et blanc, avec un peu un son, un traitement sonore d'époque, avec un espèce de feeling télé d'époque. Puis ça marche super bien. Les moments vox pop, là, pseudo-documentaire, je sais pas à quel point c'est des comédiens ou pas. J'ai l'impression que c'est un heureux mélange des deux. Les gens qui sont interviewés, par exemple, ils vont parler à des bûcherons... Puis ils vont leur demander c'est quoi leur opinion sur tel enjeu société ou tel enjeu politique ou c'est quoi leur réalité. Puis il y a des belles luttes d'idées qui sont dites à travers tout ça, comme à un moment donné aussi on parle avec les femmes, un groupe de femmes, c'est la montée aussi du féminisme à la fin des années 60, donc ils parlent aux femmes, puis de comment ils sont solidaires entre elles et blablabla. Donc ça, c'est des beaux moments qui ont une belle authenticité. Mais il y a une espèce de triangle amoureux, là, puis une espèce de petit drame là, de pacotille entre bon, le personnage de Martin Dubreuil qui veut comme cruiser Sophie Desmarais, qui elle est pas sûre dans son couple, puis c'était vraiment pas nécessaire. Puis je sais que si t'enlèves ça, ça serait comme hey, wow, mais là, on n'a pas de film, on n'a pas de drama. Ouais, mais peut-être que ce film-là aurait gagné à juste miser sur son ambiance, juste miser sur son intelligence au niveau stylistique, puis sur les vox pop. Parce que le drama, le film narratif, on s'en fiche. T'sais. Puis ça finit un peu là-dessus aussi, ça qui est poche, parce que le film est rappé sur la conclusion de la petite histoire. Mais la petite histoire, on s'en fiche, c'est la grosse histoire qui est le fun. C'est justement la jeunesse, c'est la prise de parole, c'est le peuple. T'sais, vois-tu, c'est tout des trucs épiques. T'sais, fait, c'est poche que le épique soit aussi dilué à travers un petit triangle amoureux boboche un peu, tu sais. Ben, mais allez voir. Puis si vous êtes pas d'accord avec moi, ben on s'en reparle.
Mais ça a l'air de... Tu m'en parles, puis ça, moi, tu me le vends, en fait. Ça a l'air d'un film original, à tout le moins. Puis,
c'est ça.
Un premier film aussi d'Éric Morin, premier long-métrage. Oui.
J'avais vu un court-métrage de lui qui était très beau, qui avait fait sans argent, qui s'appelle Opacatica, qui était bien, puis c'est dans la même continuité de son style aussi, fait que j'ai l'impression qu'il y a une voix à lui
qui va se développer. C'est-tu le couple dans le chalet?
Ouais, okay, c'est un couple dans le chalet, ouais, l'hiver. C'est bon, c'est... Ouais, c'était bon, c'est super bien. Une espèce de humour étrange. Puis, c'est ça, l'hiver, le bois, il y a quelque chose à lui, on dirait. Donc, moi, je suis vraiment curieux au fait de voir aussi comment sa carrière va évoluer à partir de ce film-là. C'est un film d'époque, hein, Godard d'Abitibi. Il y a des belles trouvailles, il y a des belles choses, il y a un bon rendu, une petite soundtrack là, d'époque à la France Gall, yéyé, jeunesse. Ça, c'est vraiment le fun, ça contribue à l'atmosphère. Gros travail de direction artistique. Non, il y a plein de belles qualités, le film. Mais c'est pas le chef-d'œuvre du siècle.
Donc, Chasse au Godard d'Abitibi d'Éric Morin qui est toujours à l'affiche au cinéma.
Eh oui.
Sinon, on va prendre une petite pause des critiques et on va parler en fait du nouveau cadeau de la Cinémathèque pour novembre-décembre, leur
Ah ouais.
dépliant est sorti de la programmation. Et gros, gros dépliant. On sort les gros canons un peu pour.
Comme Pee-wee's Big Adventure.
Ouais.
Je sais. Non, mais puis en plus, il est surligné comme un essentiel. Mais moi, je dois avouer que je le connais pas, ce film-là de Tim Burton. Puis tu m'en parlais un peu off-podcast. Je trouvais ça tellement intéressant, Rémi, que je vais te faire répéter ce que tu me disais. C'est quoi ça, Pee-wee's Big Adventure?
Ben, Pee-wee Herman, en fait, c'est un personnage qui était vraiment connu dans les années 80 aux États-Unis. C'était un personnage d'émission pour enfants joué par Paul Rubens. C'était vraiment gros, là. Genre, moi, ça me surprend, en fait, que tu connaisses pas ça. Il y a plein de longs métrages, plein d'épisodes. Je pense que ça s'appelait Pee-wee's Treehouse, quelque chose comme ça, la série télé. Ça se peut que je me trompe, là. Mais en gros, c'est vraiment, là, c'est un trip d'acide, là. C'est une émission pour enfants de trip d'acide. Puis Paul Rubens, il joue une espèce de. Il joue comme un. C'est comme un enfant qui. Ben, comme un adulte, mais qui a pas vieilli, là. T'sais, c'est comme un enfant vieux, là. En tout cas, c'est un peu troublant comme personnage. Puis il parle comme ça! C'est mon imitation de Pee-wee. Puis Pee-wee's Big Adventure, en fait, c'est le premier long métrage de Pee-wee parce qu'il y en a eu plusieurs par la suite. Il y en a eu un avec un cirque, il y a eu toutes sortes d'affaires. Puis le premier, en fait, c'est le premier long métrage de Tim Burton aussi.
Papa.
Ouais, puis Tim Burton, en fait, son style fit tellement avec Pee-wee parce que c'est. Ben, c'est ça, là, c'est haut en couleur. Il y a comme une des scènes d'ouverture du film, Pee-wee se fait un déjeuner, mais c'est une grosse Goldberg machine, là. C'est quelque chose qui fait tomber quelque chose, qui fait tomber quelque chose. Puis il se fait un déjeuner avec ça, puis il est comme Hello, Mr. Breakfast. Puis il se fait son gros déjeuner, puis il bouffe avec la musique de Danny Elfman craquée dans le tapis. Puis en gros, le film, c'est un road movie. À propos de Pee-wee qui se fait voler son vélo rouge, puis ben c'est ça, là, il essaie de retrouver son vélo genre au travers de la ville, puis il croise plein de personnages vraiment weird. Il arrive maintenant dans un bar de motard, puis il danse sur les tables, puis c'est vraiment bizarre, là. Puis Tim Burton, il a réussi à plugger du stop motion aussi au travers, même si c'est pas un film de stop motion, mais vraiment, tu vois, la suite logique après avec Beetlejuice, qu'il a fait tout de suite après, il y a vraiment là, une continuité dans l'esthétique, puis dans ce qu'il a fait. Fait que, ben, moi, en tout cas, c'est vrai, c'est sûr que c'est vraiment léger, là, mais, tu sais, de l'avoir à la Cinémathèque en 35, moi, je pense que ça... Ah, c'est le 2 novembre,
ouais,
ça.
Oui, c'est ouais, passé, c'est ça. Tout ça pour dire que c'est dépassé.
Moi, je suis en train de vous craquer, mais non, c'est passé, fait que... Ben,
où est
c'est
là
tout.
sur Netflix?
Mais non, mais trouvez-le, parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de le voir, au moins une fois, là. C'est comme un oublié, mais c'est le début de la carrière de Burton. C'est dans le temps qu'il y avait plus de magie dans ce qu'il faisait, puis que c'était plus original. Dans le temps qu'il y avait une signature, puis qu'il était pas... C'est pas comme une parodie de lui-même, là.
Ben, ouais,
Ça, c'est rendu un peu répétitif, tout ce qu'il fait, là.
ben parlant de l'âge d'or de Tim Burton, là,
Ouais.
jeudi le 7 novembre, okay, le podcast devrait être en ligne d'ici là. Ed Wood de Tim Burton, film de 94.
Ouais, pis moi, c'est mon film préféré ever, là. Genre, tu me dis, genre, nomme-moi rapidement là, ton film préféré, pis je vais nommer ça, là. Je l'ai
Pas
vu
juste de
genre,
Tim
juste mille
Burton,
fois,
là,
là.
de tous les temps. Là.
Ben, tu sais, je dis pas que c'est le meilleur film de tous les temps, mais moi, c'est mon personal favorite, là. Je peux comme, tu sais, tu me dis, là, de n'importe quel film, t'en
Ben,
écoutes un, moi, c'est ça. C'est
c'est
vraiment
vraiment
ça, là.
drôle, les gars, parce que vous savez que le 7 novembre, on pourrait écouter le film préféré de Rémi à 18h, puis le film préféré de Paul à 20h30, parce que c'est suivi de 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick en 35. C'est quand même fucké. Si jamais il y avait une projection de minuit et demi là, de Deer Hunter, après, ce serait parfait, hein?
Mais
Ouais,
non,
ouais.
puis pour moi, tu sais, je l'ai vu souvent en 2001, mais je pense que je l'ai jamais vu en 35 mm parce que je l'avais vu à un moment donné au cinéma à Québec, mais je pense que c'est une projection numérique. Donc.
Je l'avais vu à la Place des Arts à l'extérieur, Il avait tendu un immense écran, puis on était assis comme dans les escaliers de la Place des Arts, puis il y avait ça qui jouait. C'était fou là, comme expérience.
C'était pour quel festival, ça?
Je me souviens même pas. Je pense que c'était pendant l'FNC, en fait, mais il y a comme 4 ans, 3 ans peut-être. Puis c'était vraiment... Il avait fait une série de projections extérieures sur écran géant, géant. Là. Puis il y avait 2001 qui jouait. C'était vraiment spécial comme expérience. Là. Mais ouais, là, il est comme en 35 à la Cinémathèque, ça vaut la peine. Mais Ed Wood, il est en numérique, par exemple. Fait que...
Ouais, mais quand même.
Ouais, c'est ça. Si vous voulez le voir sur grand écran, c'est une bonne occasion.
Mais là, moi, je pense que jeudi soir, là, si je suis capable, là, parce que là, j'ai comme beaucoup de devoirs, là, mais ouais, je pense que je vais aller me retaper 2001, le petit l'espace, pour le voir enfin en 35 mm, en espérant que la copie soit belle aussi. Sinon, qu'est-ce qui se passe d'autre en novembre? Ben, évidemment, la Cinémathèque, c'est aussi l'hôte des... Ben, un des autres de Cinémania ainsi que des RIDM.
Oui, qui tu sais, Cinémania, c'est du 7 au 12, puis RIDM, ça commence la journée d'après, du 13 au 24.
Ben en fait, novembre. En fait, c'est-à-dire à la Cinémathèque, parce que Cinémania, ça continue jusqu'au 17 novembre.
Oui.
Donc, c'est ça, ils font une rétrospective d'Anouk Aimée, entre autres, pendant Cinémania. On peut voir notamment la Dolce Vita en 35 mm le 10 novembre à 17h.
Oui, Un homme et une femme aussi, un super bon film, le lundi 11 novembre. Mm-hmm. Lola, dont on a parlé beaucoup au FNC, une belle restauration. Donc, il est représenté dans le cadre d'une rétrospective Anouk Aimée qui sera là, en fait. Ouais. Elle va être à Montréal pour l'occasion. Donc, encore une fois, hein, c'est des super bons films. Un homme et une femme, magnifique film. Lola aussi, je vous le vends. Je sais qu'on en parle souvent, mais vraiment... c'est pas les occasions qui manquent, donc attends un peu, Lola, il joue quand? Il joue où?
Le 12 novembre à 18h30.
Le 12 novembre, ouais, c'est ça. Donc, notez-le.
Sinon, ensuite, les RDM, c'est une rétrospective Marcel Ophuls, qui sera également présent pour plusieurs des films.
Quel âge il a, lui? Il doit être...
Je suis pas mal âgé. c'est sûrement... Mais non, mais en fait, c'est ça. C'est sûrement, tu sais, pour ceux qui sont fans ou qui veulent le rencontrer ou écouter, tu sais, c'est sûrement la dernière occasion de le voir à Montréal.
Ouais, c'est ça. C'est un peu le chagrin et la pitié, ah, c'est ça, c'est 1969, ouais. Fait que, ouais.
Vendredi, ça, c'est vendredi le 15 novembre à 18h30, le chagrin et la pitié. Film avec Entracte, hein, c'est un film de plus de 4 heures. Sinon aussi, le dimanche 17 novembre à 18h, c'est Hôtel Terminus, film de plus de 4 heures avec Entracte. Donc, des gros morceaux de documentaires. Moi, malheureusement, je ne connais que de nom. Là. Tout le monde en parle, tous les experts en parlent comme un des documentaristes marquants.
Ouais, mais c'est vraiment pas banal. Tu sais, vois-tu, on en parle comme ça, mais il faut vraiment insister. Écoute, Le Chagrin et la Pitié, en 35 mm, à la Cinémathèque, en présence de Marcel Ophuls, c'est quand même gros, là. C'est pas genre... Oh, ouais. Ça arrive pas n'importe où, n'importe quand, tout le temps. Là. C'est... Moi, je vais vraiment essayer d'y aller. Waouh, c'est vraiment magnifique.
Ouais, non, effectivement. Moi, je vais avec Cinémania, je vais avec Poignard Impérial. jeudi le 21 novembre, un de mes films préférés, Valse avec Bachir, d'Harry Fullman. Son nouveau film, d'ailleurs, Le Congrès, sera présenté au sommet du cinéma d'animation, qui ont lieu du 27 novembre au 1er décembre. Vite demain, d'ailleurs, c'est quand? Je pense que le film d'ouverture, Le Congrès. En tout cas, vous irez voir sur le site des sommets de l'animation.
Mm-hmm.
Décembre, il y a une rétrospective Jean Grémillon. Donc, un vieux de la vieille, un cinéaste français du début, dans les années 30 surtout, qui était très connu. Moi, je le connais pas personnellement. J'ai vu le film Maldon, par contre, qui est présenté le 6 décembre à 18h30 en présence du pianiste Gabriel Thibodeau.
Oui.
Donc, ça vaut la peine. Hein. C'est tout le temps le fun de voir des films muets comme ça. Parce que, tu sais, moi-même, là, je trouve que des films muets, c'est quand même dur à écouter. Il faut se mettre dans un mood. Puis, comme, tu le voir en salle avec un pianiste, c'est parfait. Là.
C'est tellement le fun aussi. Ça a l'air aride. Puis je sais qu'on en a déjà parlé au podcast, mais quand tu te vois là, finalement, tu retrouves une belle magie. C'est super le fun. C'est vraiment des belles soirées. Il n'y a pas de... Tu te fais pas chier du tout. Là. C'est vraiment des belles soirées en piano, en musique, en images. Fait que, ouais, des films muets à Cinémathèque, sérieux, si vous avez jamais fait le saut, moi, on vous le conseille vraiment beaucoup là, de vous laisser tenter.
Il y a aussi, on souligne les 40 ans de la QCC, l'Association québécoise des critiques de cinéma, qui ont choisi plusieurs des films, selon eux, les meilleurs des dernières 40 années. Donc, sera projeté à la Cinémathèque, entre autres, Tu as crié, Let Me Go, d'Anne-Claire Poirier, que je ne connais pas. La Neuvaine, de Bernard Raymond, Continental, de Stéphane Lafleur, ainsi que Le déclin de l'empire américain, de Denis Arcand. Donc, tu sais, plusieurs gros films québécois. Là,
mais tu connais pas Anne-Claire Poirier? T'as jamais, non?
Ben, je connais pas ce film-là, en fait, pas du tout.
Pas celui-là, nécessairement, mais t'as pu, c'est Mourir à tue-tête, tout ça.
Ouais, mourir à tout seul, okay. Crime sur le viol, en fait.
Ouais, là, okay, ça, ouais, ça, je connais ça, ouais.
Ça, c'est une grosse pièce, puis aussi Les Filles du Roi qu'elle a fait, qui est vraiment superbe, aussi, qui dure, je pense, 50 minutes ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment... c'est une réalisatrice importante, puis on a eu beaucoup des réalisatrices importantes dans le développement de notre cinématographie, puis c'est ça qui fait que je pense que peut-être une bonne balance aujourd'hui, quand même, au cinéma, au Québec, là, entre les réalisateurs hommes et femmes, en fait.
Ah ben, c'est intéressant ça. Donc tu me fais rendre compte que je la connais, mais pas ce film-là en fait.
Bah, c'est ça.
Qui serait peut-être son meilleur, supposément, s'il est choisi par la QCC.
Mm-hmm.
Aussi, ben, un hommage pendant la fin du mois de décembre à Michel Brault. Donc plusieurs de ses films, soit en tant que directeur photo ou en tant que réalisateur. Donc c'est l'occasion de voir ou revoir Mon oncle Antoine, Entre la mer ou l'eau douce, Les ordres. Mourir à toute tête, justement, et représenter, c'est lui qui faisait la direction photo pour La suite du monde aussi, Kamouraska de Claude Dutra. Donc, tu sais, si on veut se faire un peu, tu sais, quelqu'un là, qui connaît pas du tout le cinéma québécois, là, mettons un touriste ou quelqu'un de jeune, tu sais, qui a jamais vraiment suivi l'histoire du cinéma québécois, là, comme prends-toi comme du temps pour aller à la Cinémathèque en décembre, puis tu vas avoir déjà un très gros résumé.
C'est ça, c'est pas mal ça. Au Pogba, c'est les gros morceaux. C'est Mon oncle Antoine, Les ordres et compagnie. Ouais, ils sont tous là pour la suite du monde, my God.
Et finalement, le 22 décembre, dernière journée de projection de l'année à la Cinémathèque, un classique de Jean-Marie Poiré. Le 22 décembre à 19h, Le Père Noël est une ordure.
Ah ouais, j'ai pas vu ça.
Oh, moi je l'ai jamais vu non plus, il paraît que c'est vraiment un classique de Noël.
Ouais, moi non plus. Donc, mais ouais, ça, ce film, je pense que, parce que tu sais, ma belle famille est française, puis pour eux, comme c'est vraiment le film de Noël. Là. Donc, tu sais, peut-être que pour nous, c'est un peu plus comme, je sais pas moi, Le Sapin des Boules, ou Home Alone, peut-être. T'sais. Mais en France... Là,
vous autres, c'est quoi?
Moi, ça serait Home Alone, ouais.
Ouais. Moi, c'est drôle parce que moi, Noël, j'ai vraiment associé ça aux comédies musicales. Tu sais, c'est le temps de l'année où on réécoute le Sound of Music en famille et tout ça. Donc, moi, c'est poche, hein, mais mes films. Mais, t'as peu. Non, un vrai film de Noël, là, t'as peu, ça serait cool.
Moi, c'est le Sapin des Boules que j'ai vu à chaque année, je pense, depuis que je suis tout petit, là.
Ah ouais?
Ouais.
Ah ouais, t'as peu. Ouais.
Je dis pas que c'est le meilleur, mais je dis que c'est comme le classique, là. Mais j'ai découvert. Moi, j'ai découvert il y a pas si longtemps, en fait, Christmas Story, puis c'est fou ce film-là, là. C'est tellement bon là.
Ah, c'est tellement déjanté, hein, c'est ça.
C'est génial. Ouais, moi j'ai tellement capoté. Puis tu sais, c'est vrai, je l'ai découvert il y a 2-3 ans, là. Je l'avais jamais vu. Mais ça a été, je trouve, un des bons films de Noël que j'ai découvert. Mais reste que Le Sapin des Boules, c'est juste le petit classique. Je pense que je peux le quoter du début à la fin. Là.
Mmh. Hey, podcast fait exactement comme les centres d'achat, vois-tu? Début novembre, on est déjà en train de parler de Noël. Sacrément de bâtard.
moi aussi, un petit props à The Grinch, mais la version de Chuck Jones, la version animée. Là.
Ah, j'ai pas vu ça non plus.
C'est génial. Hein?
C'est genre c'est un spécial de 30 minutes, là, un peu comme Charlie Brown's
Christmas. Ouais, ouais, ouais.
C'est la voix de c'est la voix de Boris Karloff, il me semble. Hein? C'est un gars qui fait de l'horreur, ça se peut-tu?
Ça, je me rappelle plus, ouais. Parce que moi, souvent, je l'écoutais en français quand j'étais jeune, là, comme doublé à Canal Famille.
Il y a une couple de films comme ça que on dirait qu'on peut juste s'en rappeler, doublé. Genre, il y a une couple de films comme ça que moi, ça sera toujours des films doublés en français. En tout cas, parenthèse, ça n'a pas levé, je suis désolé.
non, mais ouais, je comprends ce que tu faisais. Donc, c'est ça, la Cinémathèque québécoise est toujours disponible à la cinémathèque.qc.ca. Sinon, Pascal, toi, il y a un petit film que tu as vu un matin. Tu m'as dit que t'as trouvé ça pas pire.
Que oui, les amis. Non, mais OK,
pour remettre en contexte, en 2011, ton top, ton film de l'année, numéro 1, c'était Une séparation.
Ah, facilement.
D'Asghar Farhadi. Puis tu me disais même que pour toi, c'était le premier grand chef-d'œuvre de la nouvelle décennie.
Ben, puis peut-être le seul. Tu sais, que j'ai rien à reprocher. Tu sais, Une séparation, pour moi, c'est... Est-ce que vous l'avez vu d'un, les gars? Vous l'avez vu
non.
ou pas?
Moi, je l'ai vu, ouais, on avait fait un podcast là-dessus à un moment donné.
Toi, tu l'as vu, Paul, donc.
Ouais.
C'est ça. Bon, pour moi, Une séparation, c'est un film sans faille. C'est une leçon de scénario, une leçon d'humanité, une leçon de tout, OK? Pour moi, ce gars-là, c'est le nouveau Bergman en termes d'intelligence interrelationnelle. Il l'a juste trop. Puis... j'ai pas vu ses autres films, j'ai pas vu ce qu'il a fait tout près Une séparation. Il fait quand même des films depuis 2003, puis avant ça, il faisait des documentaires pour la télé et il a toujours été scénariste aussi pour la télé. Et ça se ressent, ça, parce qu'on s'improvise pas scénariste. Moi, je pense que c'est vraiment un métier. Puis comme par exemple, il y a plein de cinéastes qui vont aller trouver leur force ailleurs, t'sais, des cinéastes qui sont un peu plus faits peut-être au niveau du scénario, mais que ils vont avoir un traitement du rythme ou de l'atmosphère ou de la musique qui est tellement puissant que finalement le scénario devient et est important tout le temps au cœur d'un film, c'est sûr, mais c'est pas ça qui est au centre. Mais lui, on le sent que c'est vraiment un scénariste de métier. Puis c'est tellement beau, ça a tellement de l'air sans effort. C'est comme voir Usain Bolt courir son 100 mètres à la course. Ça a pas l'air difficile, ça a pas l'air. Puis il est juste meilleur que tout le monde. Pour moi, c'est Asghar Farhadi. Il est sur une autre planète au niveau d'écriture de scénario. Il est vraiment dans une classe à part aujourd'hui. Il n'y a pas d'équivalent. Puis c'est pour ça que j'allais voir le passé en me disant, j'avais tellement été abasourdi par une séparation.
La marche était haute.
Puis une séparation en plus aussi pour parce que tu sais, je compile aussi ma liste parce que moi j'aime les listes, ma liste de films préférés de tous les temps aussi. Puis une séparation est comme dans mon top 50 de tous les temps. C'est le seul film de la nouvelle décennie aussi qui se hisse dans mon top 100. En fait, c'est le seul film des 5 dernières années dans mon top 100. Puis il est comme, je l'ai mis dans mon top 50. C'est juste trop bon ce film. Ok, bon. Est-ce que c'est clair? Bon. Puis, la marche était haute, puis je dois avouer que c'est un film, encore une fois, c'est drôle parce que c'est Sébastien Pilote avec le vendeur, j'ai dit ça, puis c'est un peu ça, c'est en continuité, mais c'est très différent, par contre, dans les détails. Un peu comme un Ozu peut faire des films pareils, mais très différents, j'ai l'impression que ce film-là, bon, la différence majeure vient du fait que c'est son premier film en langue française.
En langue étrangère.
Ouais. Donc, il l'a tourné avec Bérénice Bejo qui a gagné le prix d'interprétation à Cannes. Vraiment, c'est très mérité. Hein. Si on pouvait la trouver un peu fatigante dans l'artiste, moi je l'aimais bien, mais je sais que c'est pas tout le monde qui l'a aimé dans l'artiste.
Ben, elle était bonne, mais je trouve que le casting était étrange pour un film d'époque comme ça. Jean Dujardin, il y avait la tronche de l'époque.
C'est vrai.
Mais je trouvais qu'elle, était costumée comme à l'époque, mais elle avait pas un visage qui fitait avec le. Le style qu'ils sont allés chercher, là.
Je suis très d'accord avec toi au niveau du casting. Par contre, son jeu, pour moi, il n'y avait pas de problème au niveau de son jeu. Je trouvais que, oui, c'était gros, c'était grand, c'est du muet.
Moi, je trouvais qu'elle sonnait faux, par exemple, un peu.
son accent, là, c'était pas
crédible. Non, ça marchait vraiment pas. Non, mais là, de l'entendre parler, premièrement, non, on sait jamais. Hein. C'est parce que là, une actrice qui fait la transition du muet au parlant, on le sait que ça n'a pas toujours marché pour tout le monde.
Ouais, mais c'est pas son premier rôle non plus.
Mais non, je sais, je niaise. Puis c'est la femme, hein, vous saviez, en fait, micro-parenthèse, mais vous savez que c'est la femme de Michel
Azabsis, ouais.
Ouais. Bon, c'est ça. Bref, mais là...
Tout le monde sait ça.
Et donc là, dans le passé, elle a vraiment un rôle riche, extrêmement juteux. Puis, encore une fois, c'est la même force qu'il y avait dans Une séparation. Tous les personnages ont leur motivation. Tous les personnages sont dans des zones de gris. Le film, en gros, c'est le film ouvre, on est à l'aéroport. Et Bérénice Bejo attend justement quelqu'un. Finalement, arrive cet homme, un Iranien avec la barbe et tout ça, qui parle quand même un français, un très bon français. Et on comprend que l'homme est revenu en France pour signer un divorce, pour signer le divorce avec sa femme.
Tiens.
Ouais, bon. Mais, non, mais c'est vraiment quand même, c'est très différent parce que là, au fil en aiguille, on apprend que, bon, sa femme, elle veut lui demander le divorce parce que, là, elle a une nouvelle relation. Mais là, c'est très complexe parce que l'homme qui est dans sa nouvelle relation, lui, sa femme est dans le coma. Elle se serait. Bon, j'ai même pas envie de rien dire en fait, mais parce que le film se laisse découvrir comme un bon feuilleton, mais sans tout le petit côté cheesy, tu sais, des feuilletons, de tous les rebondissements de nos vies, puis des tribulations, de comme. Non, c'est. Il se passe plein de choses, c'est très dramatique. Mais ça évolue de façon telle que c'est extrêmement crédible et extrêmement puissant. Puis en plus, c'est que c'est correct que tout déboule dans le cadre du film, qui est quand même de 2h10, donc 130 minutes. C'est correct que ça déboule un peu plus vite que peut-être que ça déboulerait dans nos vies normales, parce que c'est une situation extraordinaire. Le film nous prend à un moment extraordinaire, qui est le retour de cet homme-là après 4 ans, pour venir signer le divorce. Et puis là, il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup d'amertume qui s'est accumulée de part et d'autre. Puis là, il y a la nouvelle relation qui entre en jeu. Il y a des enfants qui ont grandi, entre autres une adolescente, parce que là, Bérénice Bejo, évidemment, elle a des enfants. Puis là, c'est une relation très tumultueuse avec son adolescente aussi. Puis là, le père qui revient, justement, renoue avec la fille. Tu sais, vois-tu à quel point chaque personnage est infiniment riche parce que chaque personnage agit différemment avec tout le monde. On n'agit pas pareil avec la mère, qu'avec le nouveau chum, qu'avec la petite fille de 4 ans, qu'avec l'adolescente, qu'avec... Puis tout le monde a cette panoplie d'émotions-là, parce que tout le monde a cette panoplie d'interactions-là. Fait que c'est un film qui est très incestueux dans le sens où tous les personnages sont toujours en train de se parler de part et d'autre tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très fermé, c'est très en vase clos autour de cette cellule-là qui est analysée au microscope. Mais c'est trop riche, je veux dire, c'est juste trop bon. Puis c'est comme... C'est Woody Allen qui va peut-être chercher ça dans Anna et ses sœurs, puis c'est à peu près tout. Tu sais, je veux dire, c'est tellement de la richesse de relations humaines. Puis quel film! Le micro bémol, il y a peut-être un petit peu trop de scènes d'engueulade avec juste des enfants qui écoutent. Tu sais, parce que des enfants, c'est cute, là, puis bon, des enfants, c'est innocent. Puis un petit peu trop de moments dans le film, peut-être, où comme il se passe de quoi de vraiment dramatique, puis t'as comme juste l'enfant qui écoute. Là. Peut-être genre une scène de trop en particulier que j'ai en tête, là, on en reparlera si vous l'avez vu. Mais comme, c'est quoi, là? C'est un micro faux pas pour un film qui est quasi sans faille pour moi, là. Donc, on parlerait de mon leader pour 2013. Sans l'ombre d'un doute, les amis. C'est un extraordinaire film.
Puis t'as quand même vu des gros morceaux cette année.
Oui, vraiment.
C'est pas comme si t'écoutais 10 films par année.
Non, c'est ça. Puis c'est une année qui a une bonne profondeur. Hein, puis dans plusieurs genres différents. De la folie du film de Sion Sono à la folie de la Grande Bellezza, à la subtilité du film de Giazanke, à ça. Tu sais, je veux dire, non, il y a eu des très bons films cette année. Mais pour moi, c'est lui qui trône au sommet. Oh my god, c'est vraiment une autre planète. Là. Je sais que je me répète, mais c'est au niveau de l'intelligence de l'écriture, c'est une classe à part.
Donc, tu as parlé un peu de la justesse de Bérénice Bejo.
Oui, oui.
Qu'en est-il de Tahar Rahim?
Très bien, mais je connais sa tronche, mais dans quoi il a joué, Ludon?
Oh, un petit film qui s'appelle Un prophète.
Ah, ben oui, voyons donc. Ah, c'est vrai que je suis cave. Ben oui, c'est ça. Je suis comme tout le long du film. Je suis, ben ouais, il me semble. Voyons.
Il a aussi joué dans un film que j'avais quand même bien aimé, qui n'a pas eu des très bonnes critiques. Puis je peux comprendre pourquoi, mais c'est Mystery de Yilou, un CH chinois qui avait tourné justement en France avec Tahar Rahim.
OK. Mais ben, il y a un anti-rôle, hein, complètement. Ben vois-tu, c'est pas un hasard qui m'a fait oublier. Sont un prophète. Parce que dans Un prophète, c'est très argot de fond de rue, puis pas éduqué. Là, il joue bon, le nouveau chum, le wannabe mari, nouveau mari de Bérénice Bejo. Mais tu sais, c'est une figure paternelle, très bien, bon, avec ses failles, encore une fois, hein, il n'y a vraiment personne de parfait dans ce film-là. Mais c'est vraiment complètement différent comme rôle, puis très très bon, très très juste. Donc, ouais, ben, il m'a fait oublier un prophète. C'est pas banal, là. Ouais.
Ben, ça donne envie, ça, c'est sûr. Ouais, le passé qui va être le film d'ouverture de Cinemania le 7 novembre, donc jeudi.
Oui.
Alors, vous devez choisir entre le passé et 2001, un petit espace.
Que vous allez pouvoir voir en salle, en fait, avec le logo de la compagnie dans le coin en basse résolution, sûrement.
Oh!
Moi, j'allais sur le cœur Cinemania.
Ouais.
Non, mais honnêtement, je vous disais, les problèmes techniques, il y en a partout. Il y en a eu beaucoup au FNC aussi. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, ah, tel film, il était cancellé ou tel film, c'est genre un screener.
Ouais, ouais.
C'est vraiment dommage. Moi, ça me fait vraiment chier. Là, comme quand tu te déplaces puis que. Encore pire qu'un screener, mettons, le film joue juste pas. Là.
Ouais.
Genre,
ouais,
noter la première projection, c'est ça qui s'est passé. Les films, le monde se pointe pour un film de 4 heures, t'as prévu ton horaire. Puis ils sont comme, bon, mais on peut pas le faire jouer, désolé, on vous donne un billet gratuit.
Ouais, là, non, c'est comme une maigre compensation, mais en même temps, tu peux pas compenser autrement que de donner un billet gratuit. Mais c'est frustrant, c'est fondamentalement frustrant. Ouais. Ça devrait juste pas arriver, mais ça arrive.
Ça devrait pas arriver. Tant que le DCP, c'est encore jeune hein, comme médium. Puis je trouve que. À cause du pushing des studios, on a vite fait la transition, mais moi, je pense que j'arrête, en tout cas. Donc, peut-être, Rémi, tu peux donner une chance à cette manière.
Non, je sais bien.
Donc, sinon, petit épisode cette semaine, on n'a pas d'autre chose vraiment à dire. Qu'est-ce qui sort en DVD? Qu'est-ce qui sort aujourd'hui, Rémi?
Ben, ça va préférer la course, en fait. Je pense qu'il est un bon highlight absolument à voir, s'il vous plaît. Ça on peut faire la course. Je suis agressif un peu.
Ouais,
c'est ça, la série Under the Dome de Stephen King en fait qui sort aussi. Moi je suis vraiment curieux de voir ça. Il paraît que c'est super bon. Puis c'est un des derniers romans qu'il a écrit aussi. Pas qu'il est mort, là, mais c'est un des derniers romans dans les dernières années qu'il a écrit. Puis on a beaucoup de films de Noël. D'habitude, je me limite à 3, mais je vais en dire 2, en fait, qui 2 de plus qui sont sortis. Il y a Christmas Story, 30e anniversaire. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez acheter ça, absolument. Rajoutez ça à votre collection DVD. Puis le film Scrooge avec Bill Murray, un autre comme classique weirdo de Noël, là, je pense, qui n'a pas été assez vu, mais qui est vraiment... C'est quoi déjà en français? Fantôme en fête. Avez-vous vu ça?
Non.
C'est vraiment le conte de Charles Dickens, mais adapté avec Bill Murray à la sauce années 80 avec des monstres, là, puis c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Mais il y a ça, sinon, c'est plein de rééditions. Ouais, vas-y donc.
D'ailleurs, je trouve qu'un film de Noël, je trouve qu'il est un peu passé dans le beurre, là, en tout cas, de mon côté, de mon point de vue, peut-être qu'il est plus populaire que je pense. Mais tu sais, justement, la version de Scrooge, mais avec Jim Carrey, là.
Ah!
Non, qui est sorti comme en 2011.
De Robert Zemeckis, là?
Ouais.
Ouais, moi, je l'ai pas vu, celui-là.
Non.
Il y a juste du monde qui l'ont vu, ce film-là. Ça va l'air
super. Répondez-nous sur notre page Facebook. Avez-vous vu ça? Mais non, moi, je l'ai pas vu, mais celui des Muppets est vraiment génial. Hein. C'est l'adaptation, là. Muppet Christmas Story, je pense, ou Muppet...
Ouais, ça fait longtemps que j'ai vu ça.
Il est super bon, pour vrai. Là. C'est vraiment une belle adaptation du conte, là. Mais c'est ça, sinon il y a beaucoup de rééditions. Il y a Hobbit, en fait, une version extended qui est sortie. Parce que
oui, parce que c'était commandé.
Parce que c'était pas assez long, la version en salle. Là.
Ouais. J'ai le coffret 5 DVD qui s'en vient avec plus de 9 heures de supplément. Je vais geeker. Là. Non, mais tu sais, honnêtement, comme.
Moi, je l'ai aimé pour vrai, j'ai vraiment apprécié.
Moi aussi, c'était correct. Là.
C'était un gros bonbon, ce film-là. Là.
Ouais. Mais tu sais, comme les éditions. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui s'en foutent des special features, puis des making-of, puis des entrevues. Mais moi, j'aime quand même pas mal ça. Tu sais, pas au point de comme acheter tous mes films en édition spéciale. Surtout que c'est rendu rare, j'achète des films là, avec Netflix et tout. Mais tu sais, les coffrets de Seigneur des Anneaux version longue, là, c'est vraiment, je pense, c'est le standard de ce qui se fait en termes de coffrets spécial. Tu sais, ça, puis tu sais, certains films de Criterion, puis mettons la Alien quadrilogie, là, qui était vraiment un bon coffret.
Ouais.
Mais, les coffrets Seigneur des Anneaux, pour vrai, là, c'est vraiment cool. Puis tu sais, ça va plus loin que le simple, genre, making-of promotionnel, de genre, on passe une demi-heure, puis on se lance des fleurs, tu sais. Ils te présentent vraiment, là, puis tout Jackson, ils vont là-dessus, tu sais, ils te présentent vraiment toutes les étapes. Tu vois c'est quoi, t'as des trucs inédits, ils t'expliquent comment, tu sais, faire du cinéma. Donc ça, vraiment, tu sais, pour les aspirants cinéastes, même, là, plus que juste pour les cinéphiles, tu sais, c'est vraiment, je trouve, une mine d'or. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de m'asseoir pendant des heures et de fouiller le coffret du Hobbit. Même si je sais que c'est un film un peu décrié, là. Mais bon.
Donc voilà, c'est ça pour cette semaine.
Et sinon, Pascal, qu'est-ce qui sort en salle vendredi?
Ouais, il y a le film Kill Your Darlings, le film américain de John Crocidas avec Daniel Radcliffe, Elizabeth Olsen et Michael C. Hall qui sort. Il y a Ellie d'Amat Escalante qui est, bon, qui a gagné, on le rappelle, au FNC, qui est, bon, supposément, ben, qui est aussi la soumission officielle du Mexique pour les Oscars, donc peut-être une nomination en vue, mais on parlerait d'un film assez hardcore à certains moments, mais un film qui trouve quand même un certain... Je pense qu'il y a quand même une histoire d'amour à travers tout ça. Bon, je vais arrêter de dire des « je pense », mais ça a l'air malade, donc allez voir ça. Puis, en numéro 1 de mes suggestions, je l'avais mentionné la semaine passée, mais il était seulement dans comme une salle, puis là, il sort beaucoup plus élargi au Québec. C'est 12 Years a Slave, puis honnêtement... Les critiques, ça n'a aucun sens, comment c'est bon partout. Je pense que c'est comme 96% sur Rotten, 96% sur Metacritic. Il est coté 2 médias films, Carl Fillion, 4 étoiles et demi. Il me semble que j'ai vu des 4 étoiles et demi à plein d'autres places aussi. Je pense que, en tout cas, un film de 2h15, ça a l'air assez quelque chose, merci. Nous, on devrait essayer d'aller le voir cette semaine. Paul, d'ailleurs, c'est cool, de, hein, ou Rémi, là, tout ça, là, on pourrait s'inviter au cinéma.
Rémi, tout ça.
Ouais, tout ça, là. Non, allez voir 12 Years a Slave, puis en parler la semaine prochaine au podcast de Steve McQueen. Et voilà.
Tu l'as bien séparé, McQueen. Sinon, ben, c'est sûr, on le répète, hein, le 10 novembre, ma suggestion répertoire de la semaine, c'est le dimanche 10 novembre à 17h. La chance de voir la Dolce Vita de Fellini en 35 mm en présence d'Anouk Aimée. Que voulez-vous de plus? Que demande le peuple? Et c'était notre point de vue. On va se laisser, nous, sur la bande-annonce plutôt de Thor, The Dark World.
Non. Est-ce que j'ai le droit de dire non?
Pourquoi?
Ben non, pas Thor, là.
Ah, come on, c'est drôle.
Tu veux vraiment que je mette.
T'as vraiment choisi ça?
Ben, pourquoi pas?
Tu veux un peu ce slave, non?
Ouais, mais on l'a déjà vu partout, là, non?
Non?
Thor aussi.
Moi, je m'étais vu ce slave Paul. J'ai jamais utilisé mon droit de veto, mais je l'utilise aujourd'hui. On finit. Alors, on termine l'émission, on va se laisser sur la bande-annonce de 12 Years a Slave de Steve McQueen. Mon nom est Paul Landriot, j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Pascal Plante.
I want to ask you what part of the country you come from.
I originate from Canada. I guess where that is.
Well, I know where Canada is. I've been there myself.
Well, travel for a slave.
Solomon Northup is an expert player on the violin.
I was born a free man, lived with my family in New York.
Be good for your mother.
Until the day I was deceived.
To Solomon.
Kidnapped, sold into slavery.
Well, boy, how you feel now?
My name is Solomon Northup. I'm a free man.
And you have no right whatsoever to detain me.
You're no free man. You're nothing but a Georgia runaway.
Went down to the River Jordan.
And that servant
that don't obey his lord
shall be beaten with many stripes.
That's scripture. The condition of your laborers is all wrong.
They're my property.
You say that with pride.
I say it as fact.
Speak!
Man does how he pleases with his property.
You come here.
Master Athol.
I say come here!
Days ago, I was with my family in my home. Now you tell me all is lost.
If you want to survive, do and say as little as possible.
My soul arising.
Well, I don't want to survive.
I thought a year of enjoy.
I want to live.
You knowed something.
I did as instructed. There's something wrong. It's wrong with the instruction.
Master brought you here to work. Any more, I'll earn you 100 lashes.
I know what it like to be the object of Master's lashes.
No!
In his own time, good Lord will manage them all.
I will survive! I will not fall into despair! I will keep myself hardy till freedom is opportune.
I was a free man. I'm not a slave.